Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Vous Fasse. Respire un coup et ça ira mieux, c'est ce que l'on dit bien souvent à un proche sous le coup d'une émotion forte. Coup de projecteur sur une fonction naturelle, essentielle, vitale, à laquelle nous ne prêtons pas suffisamment attention. Comme l'écrivait Victor Hugo dans L'homme qui rit, les générations sont des haleines qui passent, l'homme respire, aspire et expire. Nous verrons quels sont les bienfaits d'une bonne oxygénation pour notre corps, nos organes, nos cellules, notre cerveau, notre esprit. Pourquoi certaines techniques de respiration détiennent le pouvoir de nous apaiser, de nous calmer dans des moments difficiles, de favoriser l'endormissement, d'améliorer la concentration, la créativité ou encore de nous dynamiser. Nous verrons également quels sont les secrets des apnéistes pour améliorer nos capacités respiratoires, comment bien respirer et quelles sont les erreurs à éviter. Mes complices cet après-midi, Marie-Laure Sunshine et Christophe André. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Bonjour docteur Gilles Dixot.
Bonjour.
Vous êtes donc médecin physiologiste respiratoire. Expliquez-nous
oui.
ce que c'est.
Ben, la physiologie respiratoire consiste à étudier le fonctionnement de la respiration et à évaluer le fonctionnement de la respiration chez les patients, puisque les personnes qui n'ont pas de pathologie respiratoire, en général, n'ont pas besoin d'être évaluées, puisqu'elles se portent bien par nature. Donc, notre travail, c'est d'évaluer la fonction respiratoire et surtout la dégradation de la fonction respiratoire chez les patients qui souffrent de pathologie respiratoire.
Et quelle est la différence avec un pneumologue?
Alors, le pneumologue, lui, soigne le patient, et nous, notre travail, c'est d'évaluer la fonction respiratoire du patient, et en général, ce sont des pneumologues ou des médecins généralistes, d'ailleurs, qui nous envoient des patients pour évaluer leur fonction respiratoire et ainsi adapter, si besoin, le traitement à l'état de la fonction respiratoire de ces patients.
Et vous êtes également président du comité francilien contre les maladies respiratoires. Bonjour Guillaume Néry.
Bonjour.
Vous êtes apnéiste, champion du monde. Quels sont vos records en la matière, Guillaume Néry?
Alors moi, je suis un spécialiste de l'apnée en profondeur. Donc je suis descendu, j'ai battu plusieurs fois le record du monde. Donc en apnée en poids constant, on appelle ça, c'est-à-dire descendre et remonter sans aucune assistance. Donc pas comme dans le Grand Bleu. Je descends en nageant, en palmant, je remonte en palmant. Ma plus grande profondeur, c'est 126 mètres.
126 mètres, eh ben dis donc. Aline Perraudin, vous êtes déjà descendue à 126 mètres de profondeur?
J'aimerais bien, c'est un rêve, j'avoue. Et je regarde beaucoup les films de Guillaume Néry. J'ai vraiment une grande admiration.
Christophe André, nous entrons dans la vie avec une grande inspiration et nous quittons ce monde dans une ultime expiration.
Oui, et tout au long de notre vie, en général, nous bénéficions des bienfaits de la respiration sans nous en rendre compte, comme le disait Gilles Dixot, mais parfois il arrive que sans avoir de maladie respiratoire, nous ayons des stress psychologiques ou des problèmes émotionnels, et à ce moment-là, la respiration va jouer un grand rôle, soit pour aggraver nos émotions, parce qu'on sait par exemple que lorsqu'on est trop anxieux, on a tendance à respirer de manière dysfonctionnelle, comme on dit, de manière trop rapide, trop superficielle. Mais on sait aussi que toutes les méthodes de relaxation, de méditation, nous apprennent à observer le mouvement de notre souffle et à observer à quel point cela peut nous apaiser de suivre tranquillement notre respiration.
On verra ça tout au long de l'émission. Gilles Dixot, que se passe-t-il dans mon corps quand j'aspire un bol d'air frais ou moins frais?
Alors, la respiration telle qu'on la voit, nous, c'est un phénomène que je qualifierais d'alternatif. C'est-à-dire qu'on inspire, on expire, on prend de l'air propre, si possible. On expire de l'air vicié, mais vicié par nous-mêmes. Mais au niveau des poumons, en fait, c'est un phénomène continu, c'est-à-dire que la respiration apporte de l'air contenant de l'oxygène et rejette un mélange contenant du gaz carbonique, puisque en fait, la respiration, ça sert à nous apporter à la fois de l'oxygène et à extraire le gaz carbonique que nous produisons. Donc, un phénomène alternatif, inspiration, expiration, mais au niveau du poumon profond, c'est un phénomène continu d'échange entre l'air alvéolaire, c'est-à-dire au niveau du plus profond du poumon, vers la circulation sanguine, de façon à oxygéner notre sang et à rejeter le gaz carbonique que nous produisons en continu.
À quoi servent par exemple les bronches ?
Alors les bronches, c'est un couloir en quelque sorte de transport du gaz, c'est-à-dire qu'on a d'abord la trachée qui vient en premier, qui est en quelque sorte une grosse bronche, et puis on a une subdivision progressive des bronches en des bronches de plus en plus fines pour arriver au plus profond du poumon, ce qu'on appelle les alvéoles pulmonaires, qui sont le lieu d'échange entre le gaz alvéolaire, c'est-à-dire ce que nous avons inspiré, et la circulation sanguine qui va ensuite apporter l'oxygène vers le cœur, puis la circulation générale. Donc les bronches, c'est une voie de communication entre l'extérieur, l'air qui nous entoure, et le profond du poumon, c'est-à-dire les alvéoles pulmonaires et la circulation sanguine.
Sommes-nous tous égaux du point de vue des capacités respiratoires ?
Alors, on n'est pas du tout égaux en termes de capacités respiratoires, d'une part parce que ou bien on est bien portant, ou bien on est malade et on souffre de pathologies respiratoires. Et les pathologies respiratoires peuvent porter sur plusieurs facteurs. D'abord sur les bronches, comme on l'a vu, et certaines pathologies respiratoires comme l'asthme ou les bronchopathies chroniques obstructives conduisent à un rétrécissement des bronches, c'est-à-dire une difficulté à transporter l'air vers la circulation sanguine. Et puis il y a ensuite d'autres facteurs qui peuvent intervenir, qui sont là au niveau du poumon profond, c'est-à-dire la capacité du poumon à échanger les gaz entre l'air alvéolaire que nous avons respiré et la circulation sanguine.
Et quand nous sommes en bonne santé, nous ne sommes pas tous égaux ?
Quand nous sommes en bonne santé, nous ne sommes pas tous égaux parce que, d'abord, la surface d'échange de nos poumons n'est pas égale d'un individu à l'autre puisqu'elle dépend de la taille. Puisque plus on est grand, plus la surface d'échange est grande, ce qui est tout à fait normal puisqu'on a besoin de plus d'oxygène. Et puis, nos capacités dépendent aussi de facteurs génétiques et de notre entraînement. C'est-à-dire que plus on est entraîné à l'exercice, plus notre capacité d'échange sera importante.
Écoutons une personnalité très entraînée, l'apnéiste Guillaume Néry, dans ce reportage de France Télévisions en juin 2018.
Depuis plusieurs mois, Guillaume s'entraîne pour une compétition un peu spéciale.
Dans combien de temps il part, Morgane ?
9 litres d'air à inspirer. Et à l'inverse des autres, pas de combi pour Néry. Son corps va devoir supporter le manque d'oxygène. La pression et ce jour-là, le froid.
Il est parti.
De 22 degrés à la surface, la température descend à 13 degrés, à moins 100 mètres.
En visite.
La profondeur qu'il vise, celle que Jacques Mayol fut le premier à atteindre. 3 minutes 10 plus tard, le défi est relevé, 105 mètres, loin devant les autres concurrents. Et pour que la performance soit validée, il doit impérativement prononcer 3 mots.
I'm okay.
Guillaume Néry, comment avez-vous découvert vos capacités respiratoires exceptionnelles ?
Un petit peu par hasard, j'avais 14 ans et j'étais un adolescent qui se cherchait et qui avait une grande passion pour les défis, pour le sport en général. Et puis un jour, avec un copain, on s'est donné le défi d'arrêter de respirer. Je pense que tous les gamins, les ados, un jour se sont amusés à faire ça. Et en fait, j'ai été fasciné par cette exploration du corps, découvrir que mon corps était capable, finalement, avec un peu de répétition, de s'adapter à l'arrêt de la respiration, et que j'arrivais à augmenter le temps pendant lequel je ressentais beaucoup de bien-être. Arrêter de respirer, c'est un moment pendant lequel on a l'impression que le mental se met un peu au calme, au repos. Et au début, je tenais une minute trente, puis ensuite, très rapidement, je me suis rapproché des 4 minutes. Et au début, c'était vraiment une histoire de défi, de performance, je dirais presque d'orgueil. Et puis, comme j'ai grandi à Nice, avec la mer Méditerranée en face, un jour, j'ai essayé de retenir mon souffle, mais pour m'en servir pour quelque chose d'utile, c'est-à-dire découvrir les profondeurs. Et alors là, il y a vraiment eu un coup de foudre. Et du coup, je me suis mis à retenir mon souffle pour descendre à la conquête des profondeurs.
Quelles sont les sensations que l'on éprouve à 100 mètres, 110 mètres de profondeur?
Bah, ça paraît assez paradoxal parce que quand on va très profond, on rentre dans un environnement qui est hostile. En bas, il fait froid, il y a plus beaucoup de lumière et surtout, il y a une pression qui est énorme, qui s'exerce sur l'organisme et que l'on ressent sur la cage thoracique et donc au niveau des poumons. Donc la surface, le volume pulmonaire va diminuer. Donc on a toujours la même quantité d'air. C'est juste la pression qui augmente et qui va comprimer toutes ces molécules d'air. Et donc en bas, on est extrêmement écrasé, comprimé. Et si on arrive à déjà préparer son corps, s'entraîner, prendre le temps que cette adaptation se fasse, on se sent étonnamment très bien. Moi, quand je suis en bas, je n'ai aucune envie de respirer. Et il faut être dans une logique à la fois physique et mentale d'acceptation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lutter contre cette pression, on ne peut pas lutter contre ces facteurs environnementaux qui sont contraignants, hostiles, mais il faut pleinement les accepter. Et à partir du moment où on les accepte, il y a une véritable sensation de communion avec l'eau, de liberté et une absence totale de l'envie de respirer.
Gilles Dixot, Guillaume Néry, c'est un super-héros ou c'est un homme qui s'entraîne et qui parvient à ses résultats extraordinaires? Est-ce qu'il est doté de poumons exceptionnels ou bien d'un mental inouï qui lui permet de descendre à de telles profondeurs?
Alors, le premier point qui a été souligné, c'est que à cette profondeur, on a une pression sur le corps qui est importante, puisqu'on a une pression qui est de 10 kilos de force par centimètre carré du corps. Donc c'est phénoménal. Donc on a un effet de compression au niveau des poumons, mais aussi au niveau de l'ensemble du corps, avec ce qui va entraîner, c'est un des facteurs qui va entraîner l'ivresse des profondeurs. Mais pour arriver à ces exploits, en quelque sorte, il y a deux facteurs. Il y a d'abord, bien sûr, un effet constitution, c'est-à-dire que ça n'est pas donné sans doute à tout le monde. Et puis il y a aussi un effet entraînement. Alors il y a l'entraînement pulmonaire, bien sûr, c'est-à-dire apprendre à capter le maximum d'air avant de descendre dans les profondeurs. Et puis il y a aussi un phénomène adaptatif qui est un phénomène adaptatif sur le transport de l'oxygène par le corps. Et ça, c'est un phénomène adaptatif à long terme. C'est en quelque sorte se transformer en cétacé, puisqu'on sait que les cétacés peuvent descendre à de grandes profondeurs durant plusieurs dizaines de minutes. Parce que le transport de l'oxygène chez les cétacés est différent du nôtre et les plongeurs à grande profondeur modifient leur transport de l'oxygène par des phénomènes adaptatifs à long terme.
Guillaume Néry, vous étiez un cétacé dans une autre vie?
Je pense que faut pas s'imaginer que moi je suis un être exceptionnel par rapport aux humains normaux. On a tous, et c'est ça qui est fascinant et que la plongée en apnée a permis de faire découvrir, c'est que on a tous ces capacités d'adaptation en nous. Tous les êtres humains, quand ils mettent leur tête sous l'eau, déclenchent un réflexe autonome qu'on appelle le réflexe d'immersion. Qui va entraîner un ralentissement de la fréquence cardiaque et ce qu'on appelle une vasoconstriction périphérique, c'est-à-dire une modification de la répartition des volumes sanguins et le sang va aller se concentrer dans les organes vitaux nobles. Et en fait, c'est ça qui va permettre de pouvoir rester plus longtemps sous l'eau. Et plus on va s'entraîner, plus ce réflexe va être optimisé. Et on va pouvoir ainsi progresser. Alors après, évidemment, comme dans tous les sports, il y a ceux qui ont des prédispositions et qui peuvent devenir derrière des champions, des recordman. Mais sinon, absolument tout le monde peut progresser et acquérir des véritables compétences d'apnéiste. Ce n'est pas réservé à une élite ou à des extraterrestres.
Question de Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle.
Alors moi, je pense que je ne fais pas partie des gens qui seraient capables de descendre plus loin qu'1m50. Je vous assure, je suis en panique totale. Bref, Je m'interrogeais quand même par rapport à ce que vous disiez, Guillaume Néry, et aussi Monsieur Dixot. Les bénéfices, finalement, d'une respiration maîtrisée, l'entraînement, vous l'évoquiez, est-ce que ça s'applique aussi à d'autres organes? Est-ce qu'il y a un impact, par exemple, durable d'une bonne respiration sur la digestion ou le système immunitaire, notamment?
Gilles Dixot.
Alors, sur le système immunitaire, ça, je ne saurais pas répondre. Par contre, sur la respiration et sur la circulation, oui, c'est-à-dire qu'en fait, une bonne respiration, enfin, savoir apprendre à bien respirer est un phénomène, enfin, important en termes de transport de l'oxygène, transport des gaz, et aussi va permettre de développer ses aptitudes à l'exercice, parce que à l'exercice, on va consommer plus d'oxygène, émettre plus de dioxyde de carbone, enfin de gaz carbonique, donc l'entraînement est un facteur d'augmentation des performances personnelles, des performances individuelles, et donc de capacité respiratoire et cardiovasculaire. Donc un bon entraînement du système respiratoire va permettre d'augmenter ses performances personnelles en termes d'exercice physique. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Frank Sinatra et Nancy Sinatra, Something Stupid.
Appelez-moi docteur. Répondez-moi oui docteur ou non docteur.
Grand bien vous fasse.
Oh oui docteur.
Sur France Inter.
Et on s'intéresse cet après-midi au pouvoir de la respiration avec le docteur Gilles Dixot et l'apnéiste Guillaume Néry. Docteur Gilles Dixot, il existe une respiration thoracique et une respiration abdominale.
Oui, tout à fait. Ouais. En fait, la respiration thoracique et la respiration abdominale ont des fonctions un petit peu différentes. Lorsqu'on est au repos, avec une ventilation de base, en quelque sorte, on a une respiration qui est essentiellement abdominale. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de la respiration thoracique supérieure puisque la respiration courante, ce qu'on appelle le volume courant, se fait essentiellement avec le diaphragme, donc c'est une respiration essentiellement abdominale. Si on a besoin d'augmenter son volume ventilé, parce qu'on on fait un exercice, parce qu'on augmente ses besoins respiratoires, on va mettre en œuvre une respiration thoracique, c'est-à-dire que on ne va pas simplement ventiler avec la partie basse des poumons, mais avec l'ensemble des poumons, de façon à augmenter la surface d'échange, en quelque sorte, et la capacité pulmonaire d'échange, à la fois en oxygène et en gaz carbonique. Donc les deux respirations ont des fonctions un petit peu différentes. Lorsqu'on est au repos, c'est essentiellement une ventilation abdominale, avec le diaphragme, et lorsqu'on est en train de faire un exercice, on ajoute une capacité respiratoire supplémentaire qui est la respiration thoracique.
Christophe André, quels sont les bienfaits de la respiration abdominale ?
Les bienfaits de la respiration abdominale, ce sont les bienfaits associés en général à toutes les formes de respiration lente, où on laisse finalement notre corps respirer. Ce qu'on observe dans la plupart des études, c'est que plus nous sommes stressés, plus nous sommes anxieux, plus nous avons tendance à hyperventiler, c'est-à-dire à accélérer notre rythme respiratoire, à respirer plutôt de manière thoracique et à ne pas faire d'inspiration et d'expiration prolongée. Or, évidemment, on a aussi des études, et on fait ça parfois en thérapie pour montrer aux patients comment leur façon de respirer peut influencer leur niveau de stress et d'angoisse. On sait que si on demande à quelqu'un de volontairement hyperventiler, respirer très vite par cette respiration thoracique, on élève son niveau d'angoisse et on peut même déclencher des attaques de panique. C'est pour ça que toutes ces techniques de contrôle respiratoire, respirer plutôt par le ventre, insister plutôt sur le temps d'expiration, puisqu'au moment de l'expiration, il y a un léger ralentissement du rythme cardiaque. Ça répond un peu à la question de Marie-Laure Zonschein tout à l'heure sur les effets de la respiration sur certains organes. Toutes ces techniques, finalement, pour même tout simplement suivre son souffle, le ressentir, ont un effet assez rapide et assez profond sur notre état mental.
Aline Perraudin de Santé Magazine, un exercice si on veut bien s'entraîner à respirer avec le ventre, est-ce que vous avez une technique ?
Oui, par exemple, on donne un exercice, on s'allonge sur le dos, on a les mains posées sur le ventre, on commence par souffler pour bien vider l'air des poumons, puis on inspire profondément par le nez en laissant le ventre se gonfler comme un ballon. Et ensuite, on expire tranquillement par la bouche en appuyant légèrement avec les mains pour bien sentir la sensation du ventre qui se vide. Et ainsi, on se laisse bercer par ce mouvement de va-et-vient abdominal pendant au moins une dizaine de respirations.
Guillaume Néry, je rappelle que vous êtes champion du monde en apnée. Un conseil simple peut-être pour nos auditeurs pour respirer correctement ?
Oh là là, c'est c'est un vaste un sujet qui est tellement vaste. Je dirais peut-être bien prendre conscience de toutes les phases qui sont impliquées dans un cycle ventilatoire, à savoir qu'il y a quatre moments dans une respiration complète. Il y a une phase d'inspiration, une phase de rétention, une phase d'expiration et une phase de rétention à la fin de la respiration. Donc j'emploie le mot rétention volontairement parce que ce ne sont pas des apnées, ce sont des temps de suspension, des temps de pause. Et quand on s'installe dans une écoute de cette ventilation et de tous ces moments en adoptant par exemple pour commencer une respiration en carré, donc respiration carrée, comme son nom l'indique, il y a les quatre phases qui existent, on essaie de les faire durer la même longueur. Donc par exemple, on peut choisir 3 secondes ou 4 secondes. Donc 3 secondes d'inspiration, 3 secondes de rétention, 3 secondes d'expiration, 3 secondes de suspension à la fin de l'expiration. Et on va comme ça prendre vraiment conscience de l'existence de ces phases, on va les faire vivre, on va les écouter, et ça amène un véritable état de calme intérieur.
Bonjour Erwan Devez.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Alors vous êtes consultant en neurosciences, vous avez notamment publié chez Larousse 24 heures dans votre cerveau, comprendre ses émotions et améliorer sa vie. Alors vous, en cas de stress, d'angoisse ou même de colère, vous recommandez une respiration spécifique, la cohérence cardiaque. Expliquez-nous cette technique simple et gratuite.
Alors oui, vous faites bien de dire que cette technique est très simple, effectivement. C'est un exercice de contrôle respiratoire, en fait, mais qui est conscient, qui est volontaire. C'est-à-dire que la respiration est gérée par le système nerveux autonome, hein, donc c'est un système qui est totalement automatique. Et là, on reprend la main. Alors c'est fait de façon très simple. On s'assit, dos redressé, et on va inspirer par le nez pendant 5 secondes, et on va expirer ensuite par la bouche pendant 5 secondes. On va faire cet exercice pendant 5 minutes et on va le reproduire 3 fois par jour pour avoir en fait un effet continu sur l'ensemble de la journée.
Et pourquoi la cohérence cardiaque apaise ? Quels sont les mécanismes neurophysiologiques en jeu ?
Alors en fait, vous avez deux systèmes, si vous voulez. Vous avez l'accélérateur, qui est le système orthosympathique, alors qui est très utile, puisque c'est un mécanisme d'alerte, d'adaptation, il nous prépare à l'action. Et puis vous avez le frein, le système parasympathique, qui là, cette fois-ci, va ralentir la machine, va vous permettre de récupérer. Et cet exercice de cohérence cardiaque, en fait, il permet d'avoir un meilleur équilibre entre ces deux systèmes, entre ces deux branches, si vous voulez, orthosympathique et parasympathique. Et comme le disait très justement tout à l'heure Christophe, il permet de réparer cette respiration dysfonctionnelle. C'est-à-dire que nous allons par une volonté consciente et volontaire, nous allons agir sur un système qui, d'ordre général, est totalement automatique. Donc, d'une certaine façon, on reprend un peu la main et on subit un peu moins les événements.
Christophe André.
Oui. Ce que dit Erwan Deves correspond tout à fait à l'usage qu'on fait en psychothérapie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a beaucoup de fonctions de notre organisme qui sont autonomes, dont on n'a pas à s'occuper. Hein, les battements cardiaques, la digestion, le travail de nos reins, le travail de nos poumons. C'est pas à nous de nous en occuper. Par contre, ce qui est très spécifique à la respiration et qu'il n'y a pas pour les autres organes, on peut pas ou très difficilement accélérer ou ralentir volontairement son cœur, accélérer ou ralentir volontairement sa digestion. Par contre, on peut agir sur la respiration. Et comme tout est interconnecté dans notre corps, il y a ce système nerveux parasympathique et orthosympathique, effectivement, qui commande l'ensemble de nos viscères, de nos organes, eh bien, le fait d'agir sur sa respiration va également influencer le niveau de nos pulsations cardiaques, va également influencer notre système digestif. Et c'est pour ça que cet outil très simple, finalement, qu'est le travail avec la respiration, peut avoir des bénéfices multiples et nombreux sur notre santé.
Florence nous écrit « Je souffre d'hyperventilation chronique, mais je n'ai à ce jour trouvé aucune aide pour retrouver un souffle apaisé. Cela ronge ma vie. » Gilles Dixot.
Alors effectivement, ce qu'on appelle le syndrome d'hyperventilation existe. C'est une hyperventilation chronique qu'on observe chez certaines personnes qui n'a pas de support pathologique sous-jacent, c'est-à-dire que ces personnes hyperventilent de manière chronique et demandent une prise en charge assez spécifique. Il y a des prises en charge de ces patients. On ne doit pas les considérer simplement comme une pathologie psychosomatique, parce que il y a une vraie hyperventilation, et cette hyperventilation va entraîner, par la diminution de concentration de gaz carbonique dans le sang, un certain nombre d'effets métaboliques secondaires, ça doit être pris en charge, c'est-à-dire que ces personnes doivent apprendre à reprendre une ventilation apaisée, et ça demande des prises en charge qui sont tout à fait spécifiques et qui malheureusement sont assez peu répandues en France actuellement.
Allez, il est temps de retrouver les choses vues de Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre ?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute ?
Choses vues.
Les choses vues de Christophe André.
Lorsqu'ils viennent au monde, les nouveau-nés entament leur vie par une grande inspiration. Et lorsque vient le moment de quitter l'existence, les humains rendent leur dernier souffle par une ultime expiration. Dans de nombreuses langues, d'ailleurs, le terme « expirer » est un équivalent de « mourir ». Voilà pourquoi, depuis toujours, le souffle est associé à la vie. Il est aussi au cœur du dialogue harmonieux entre le corps et l'esprit, car il suffit de prendre tranquillement conscience de son souffle, d'arrêter de se disperser pour se sentir respirer, de suivre chacun de ses mouvements, chaque inspiration, chaque expiration, pour s'apaiser peu à peu. Suivre le souffle, c'est la base de toutes les méthodes de relaxation. Mais cela peut aller encore plus loin. Se rendre présent à son souffle, poser et maintenir son attention sur lui, observer comment il est associé à la vie de nos pensées et de nos émotions, c'est la base de toutes les approches méditatives qui nous enseignent que le souffle nous apporte non seulement l'apaisement, mais aussi le discernement. Le poète persan Omar Khayyam le rappelait ainsi : entre la foi et l'incrédulité, un souffle. Entre la certitude et le doute, un souffle. Sois joyeux dans ce souffle où tu vis, car toute ta vie est là, dans ce souffle qui passe. Le souffle est toujours là, effectivement, toujours à nos côtés pour enrichir et approfondir les moments forts de notre vie, nous aider à mieux traverser nos douleurs, à mieux traverser nos bonheurs. Le souffle est un phénomène simple et humble, mais sans lui, pas de vie. C'est peut-être pour cela que je suis ému par le son modeste de l'accordéon, l'instrument le plus proche de la respiration humaine, qui s'ouvre et se ferme doucement comme un poumon chantant. Il y a le bonheur et les bienfaits du souffle, et il y a aussi ces drames. Je ne peux plus respirer. Les parents qui ont eu un enfant souffrant de crise d'asthme savent parfaitement à quoi ressemble l'angoisse de l'asphyxie et ce qu'est l'effroi de voir un humain s'étouffer. Je ne peux plus respirer. La récente et encore présente épidémie de coronavirus a fait basculer de nombreuses personnes malades dans une détresse respiratoire parfois mortelle et toujours éprouvante, dont les survivants gardent longtemps le souvenir traumatique. Je ne peux plus respirer. Ces mots sont désormais associés au meurtre de George Floyd, mort asphyxié sous le genou d'un policier américain. Capté par plusieurs vidéos amateurs, ces supplications répétées « Je ne peux plus respirer, s'il vous plaît, ne me tuez pas, je ne peux plus respirer » ont suscité une émotion universelle, émotion d'être témoin impuissant de l'assassinat d'un être humain, émotion de constater le calme et l'indifférence des assassins, émotion de s'imaginer soi-même en train d'asphyxier, la gorge écrasée au sol sous le genou d'un psychopathe, immense tristesse, immense effroi, immense colère, immense besoin de réagir avec l'énergie violente de nos émotions, et puis d'agir avec l'énergie calme de nos idéaux. Se rappeler alors le mouvement du souffle, l'inspiration et l'expiration. L'indignation, la lutte pour la justice d'un côté, la volonté, l'obstination pour la fraternité de l'autre. S'ils sont dissociés, aucun de ces deux mouvements n'aboutira, mais s'ils sont conjugués, ils pourront tout changer. Allez, on respire tous ensemble un grand coup et on se met au boulot. Faire reculer et disparaître le racisme, faire avancer et triompher la fraternité, le travail ne va pas nous manquer.
Merci beaucoup Christophe André pour cette belle chronique.
Je porte un visage couleur béton. Je porte le blouson que t'aimais bien sûrement. Je porte mes prisons, j'ai gardé espoir. Qu'ait plus tes fantômes au parloir. Tout ce que j'entends, c'est ton sourire abstrait. T'as laissé derrière toi mardi dernier. Cette vie, c'est pâle, c'est fade. Sans toi, je vaux pas mieux qu'un autre. Je vaux pas mieux que ça. Je veux pas mieux que toi. Pas juste un rodéo. Avec ce qu'il reste de nous. Tous mes idées. Oh, oh. J'porte un visage couleur béton. J'porte le blouson que t'aimais bien sûrement. J'porte mes prisons, j'ai gardé espoir. Qu'ait plus tes fantômes au parloir. Tout ce que j'entends, c'est ton sourire abstrait. T'as laissé derrière toi mardi dernier. Cette vie, c'est pâle, c'est fade. Sans toi, j'vaux pas mieux qu'un homme. J'vaux pas mieux que ça. J'vaux pas mieux que toi. Pas juste un rodéo. Avec ce qu'il reste de nous. Tous mes idées. Oh, 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 oh. En plein rodé. Oh, 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 oh. J'parcours le monde sur mon deux temps. Les conséquences, moi je les verrai pas. J'ai l'impression de sortir d'un coma. Quand tes yeux me flinguent d'un verre au pas. Tout ce que j'attends, c'est ton fou rire abstrait. J't'ai perdu, j'savais plus combien j'étais. Cette vie, c'est pâle, c'est fade. Sans toi, j'vaux pas mieux qu'un homme. J'vaux pas mieux que ça. J'vaux pas mieux que toi.
Rodéo, c'est le nouveau titre d'Hervé.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebéi.
Et on s'intéresse cet après-midi au pouvoir de la respiration avec le docteur Gilles Dixot et l'apnéiste Guillaume Néry.
Quand on inspire, le diaphragme se contracte, il descend. Les poumons qui reposent sur ce muscle s'étirent, leur volume augmente. À ce stade, la quantité d'air dans les poumons est toujours la même. Simplement, cet air occupe, vous le voyez, un plus grand volume. Par conséquent, la pression de l'air dans les poumons diminue. Quand elle devient inférieure à la pression de l'air à l'extérieur, eh bien, l'air de l'extérieur s'engouffre tout seul à l'intérieur des poumons et vient gonfler les alvéoles. Quand on expire maintenant, eh bien, l'air chargé en dioxyde de carbone est évacué suivant le même principe. Le diaphragme se relâche, il remonte. La pression dans les poumons augmente. Et quand cette pression devient supérieure à la pression de l'air à l'extérieur, eh bien, l'air contenu dans les poumons est automatiquement évacué.
Extrait de l'émission C'est pas sorcier. Docteur Gilles Dixot, je rappelle que vous êtes physiologiste respiratoire. Question un peu idiote, mais je vous la pose quand même. Vaut-il mieux respirer par la bouche ou par le nez?
Alors, si l'évolution nous a donné, comme à tous les mammifères, une bouche et un nez, c'est parce que la bouche et le nez n'ont pas la même fonction. La bouche est d'abord faite pour manger et le nez pour respirer. Il faut respirer par le nez pour plusieurs raisons. D'abord, le nez est un organe qui permet de réchauffer l'air que l'on va inspirer. Et cet air réchauffé, donc, va être plus compatible avec les bronches qui viennent à la suite dans l'inspiration. Le nez va permettre d'humidifier l'air. Et il faut pas oublier que l'air, lorsqu'il va atteindre le poumon profond, doit être humidifié à saturation. C'est-à-dire que l'air est, dans ce cas, au niveau du poumon profond, complètement humide, de façon à pouvoir échanger avec le sang, sans qu'il y ait d'échanges d'eau, mais que les échanges soient des échanges essentiellement gazeux, uniquement gazeux. Donc, le nez est un organe de réchauffement, d'humidification, et aussi le nez est un excellent filtre de la pollution atmosphérique. N'oubliez pas que dans le nez, on a les cornets du nez, on a une surface très importante à l'intérieur du nez qui permet d'avoir une très grande surface d'échange et une grande surface de filtration pour les polluants. La bouche ne sert pas normalement à respirer. Elle peut servir à respirer lorsqu'on a besoin d'une ventilation extrêmement importante, mais autant que possible, respirons par le nez, et surtout chez les enfants, apprenons aux enfants à respirer par le nez et pas par la bouche.
Question de Marie-Laure Sunshine, de Femme Actuelle.
Alors je rebondis, docteur Dixot, sur ce que vous venez de dire, apprenons aux enfants, mais justement, même aux adultes, lorsque l'on est en cabinet de consultation, quelle que soit la pathologie pour laquelle on vient voir un médecin, c'est un sujet, la respiration, qui n'est jamais évoqué. Pourquoi ne pas commencer finalement une consultation ? Comment allez-vous ? Comment respirez-vous ? Voyons ensemble si vous respirez bien.
Gilles Dixot.
Oui, on n'a pas l'habitude de demander aux gens comment ils respirent, parce que la respiration est un mécanisme spontané en quelque sorte. Et il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui ne se rendent même pas compte qu'elles respirent. Parce que la question ne s'est jamais posée. Et quand on leur demande de faire des exercices respiratoires, ces personnes ont du mal parce que elles n'ont jamais eu la notion de la respiration volontaire. Donc il faut effectivement apprendre aux gens à respirer. Et ça devrait être fait au niveau de l'enseignement, de l'éducation. Ça se fait un peu, mais sans doute pas suffisamment. Apprendre aux gens à respirer et à respirer correctement.
Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine, une technique peut-être de respiration pour favoriser l'endormissement ou se rendormir en cas de réveil nocturne ?
Oui, on peut pratiquer la méthode qui est appelée 4-7-8. Mm-hmm. Elle a été mise au point par un professeur de la prestigieuse université de Harvard, mm-hmm. Andrew Weil. En fait, elle nous permet de nous détourner de nos problèmes, de nos pensées parasites, souvent qui nous empêchent de dormir. Et il s'agit en fait c'est un petit peu un exercice basé sur le décompte, un peu comme compter les moutons. Mm-hmm. Comment on s'y prend ? Eh bien, on souffle pour bien vider ses poumons. On inspire profondément par le nez en comptant mentalement jusqu'à 4. On retient ensuite l'air en comptant jusqu'à 7 et on expire par la bouche en comptant jusqu'à 8 et on répète ce cycle au moins 10 fois et ça favorise normalement l'endormissement.
Mmh. Une technique peut-être pour avoir un peu plus d'énergie, une respiration dynamisante, Aline Perraudin ?
Alors pour avoir plus d'énergie, il y a une respiration qui est recommandée, qui est dite la respiration rebond, mmh. Parce qu'elle stimule la circulation au niveau des jambes, elle réoxygène les muscles et les tissus, elle désengourdit, on va dire, elle met le corps en mouvement. On peut donc la pratiquer le matin quand on a du mal à émerger ou après la pause déjeuner, quand on a un peu envie de s'assoupir et qu'il faut recommencer à travailler. Et en fait, ben, elle est assez simple, hein, on reste debout, on a les pieds bien ancrés au sol, on prend une inspiration comme avant de plonger dans l'eau, on retient l'air et on sautille sur place comme si on avait des ressorts. Et lorsqu'on sent que l'on est au bout de sa capacité à retenir l'air, on expire et on arrête de sautiller.
Christophe André, vous aviez un ou deux conseils pour améliorer notre souffle ?
Oui. C'est pas compliqué quand même de mieux respirer, de bénéficier des bienfaits du souffle. Les conseils les plus simples, c'est tout simplement lorsque vous êtes assis ou que ce soit, vérifiez que vous êtes assis avec dos droit, épaules ouvertes, pour permettre à votre corps de bien respirer. Prenez plusieurs fois dans la journée 30 secondes simplement pour suivre votre respiration, ce que Guillaume Néry décrivait tout à l'heure, ressentez bien l'inspiration, le petit temps de suspension, l'expiration, et puis attention aux écrans. On a plusieurs études qui montrent que lorsque nous consultons les écrans, qu'il s'agisse des réseaux sociaux sur notre téléphone ou des mails sur notre ordinateur, nous avons tendance à faire des pauses respiratoires, à bloquer notre respiration et à perturber notre rythme respiratoire, ce qui va forcément augmenter notre niveau de stress.
Erwan Deves, vous êtes resté avec nous, vous êtes consultant en neurosciences. Un dernier conseil rapide, quand on sent qu'on est débordé par nos émotions, par la colère, peut-être un petit truc pour justement apaiser les esprits, apaiser la colère?
Oui, alors en fait, on a beaucoup parlé des effets positifs, des effets physiologiques et psychiques, et je voudrais juste rajouter un point qui est très important, c'est qu'une meilleure respiration permet aussi des bienfaits cognitifs. C'est-à-dire que nous allons mieux décider, nous allons mieux nous concentrer, nous allons mieux mémoriser, nous aurons plus de distance, un meilleur recul. Donc c'est aussi très important pour les auditeurs de bien comprendre que mieux respirer va les rendre aussi plus efficaces et plus performants. Donc ce sont vraiment des exercices au quotidien, parce que comme toujours avec le cerveau, c'est la constance qui prévaut, et si vous faites un exercice toutes les 3 semaines, vous serez apaisé 5 minutes après, mais ça changera pas grand chose, alors que si vous faites des exercices de contrôle respiratoire tous les jours, humblement, petitement, mais tous les jours, là vous changerez votre chimie interne.
Guillaume Néry, le mot de la fin, un mot de conclusion?
Dis donc, après tout ce qui a été dit, je dirais que, en tout cas, moi, le fait d'arrêter de respirer et de contrôler cet arrêt de la respiration, ça a été la grande découverte de la respiration. Et finalement, on a en nous, tous les êtres humains, ce que disait Christophe André il y a quelques instants, la capacité de reprendre le contrôle là-dessus. Et c'est tellement facile. Il n'y a pas besoin d'être un expert. C'est très facile et les résultats sont immédiats, sont rapides. Et ça améliore vraiment, vraiment le bien-être au quotidien.
Merci beaucoup Guillaume Néry. On peut lire avec profit Guillaume Néry à plein souffle, un beau livre publié chez Glénat avec des photographies de Franck Séguin. Merci Dr Dixo, merci à tous. Aline Perraudet, on peut lire avec profit également le tout dernier numéro de Santé Magazine. Moi j'ai faim, je sais pas vous, mais voilà, on va retrouver tout de suite notre chef Grégory Cohen.
Où sont les poulards? J'ai faim!
Grand bien vous fasse.
Vous aimez bien tout ce qui est bon.
Ali Rebéi.
C'est très mauvais.
Sur France Inter.
Il aime bien tout ce qui est bon, Grégory Cohen, notre chef. On prend le temps de cuisiner maison avec vous. Alors, du sucré salé pour ce soir?
Exactement, Ali. Mais je vais vous raconter l'histoire, en fait. On va faire une tarte tatin aux oignons, comme ça. Ouais. Tout le monde le sait dès le départ.
Aux oignons nouveaux.
Aux oignons nouveaux. Aux oignons nouveaux. Et je vais vous raconter l'histoire, Ali, de cette tarte tatin. Vous savez, une histoire où se mêlent intrigue, gloire et légende. Donc l'histoire de la tatin, cette fameuse tarte originellement aux pommes caramélisées qui se cuit à l'envers pour se déguster à l'endroit, déjà c'est compliqué. La légende d'abord commence fin du 19e siècle, en 1898 précisément, et se joue à l'hôtel-restaurant Tatin, dressé face à la gare de la Motte-Beuvron en Sologne. Y officiaient deux sœurs, Caroline et Stéphanie, fines cuisinières, mais a priori tête en l'air, puisque l'histoire veut qu'au moment de servir une tablée de chasseurs impatients, Stéphanie aurait enfourné sa tarte sans pâte, et plutôt que de la refaire, aurait ajouté la pâte sur les pommes. Serait née la tarte des sœurs Tatin, cette histoire serait largement romancée, à mon sens, ce qui lui donne d'ailleurs un charme vraiment incontestable. La réalité serait plus vraisemblablement, attention, on va rétablir la vérité maintenant, Ali, dans cette émission. A priori, en fait, il s'agit d'une reprise traditionnelle d'une recette soloniote familiale de tourte qui se réalise aux pommes ou aux poires. Et les sœurs Tatin l'auraient mise en avant dans leur restaurant et renommée à leur façon tarte tatin.
La recette, mon cher Grégory, parce qu'il nous reste très peu de temps, hélas. Moi, j'ai faim, je veux la recette.
Alors, la recette, on y va. Alors, il faut une pâte brisée, environ 1 kg d'oignons nouveaux, 30 g d'huile d'olive, 15 g de vinaigre balsamique, 20 g de beurre, 25 g de sucre, une cuillère à soupe de miel, une branche de romarin, et puis 2 crottins de chèvre frais, 3 branches de thym citron, une pincée de piment d'Espelette. C'est très rapide, en fait. Il faut laver et couper les oignons en deux sur la hauteur et réserver les tiges. Faire chauffer l'huile d'olive, le beurre et le romarin dans une sauteuse, puis faire revenir et colorer les oignons pendant 5 minutes. Ensuite, on retire le romarin, on ajoute le vinaigre balsamique et le miel, on sale, on poivre et on laisse colorer à nouveau 5 minutes en retournant délicatement les oignons. On ajoute ensuite l'équivalent d'un verre d'eau et on laisse compoter 45 minutes à couvert. On préchauffe le four à 180 degrés. On beurre un moule à tarte, on saupoudre le fond de sucre et on dispose les oignons côté bombé vers le haut. On déroule la pâte brisée par-dessus en rabattant l'excédent de pâte sur les bords pour bien tenir les oignons. On enfourne environ 25 minutes, la pâte devrait avoir bien coloré. On retourne la tarte à l'aide d'une assiette. On émiette le chèvre dans un bol, on le mélange avec le thym, une cuillère à soupe d'huile d'olive, le piment d'Espelette, les tiges d'oignons ciselées finement, on parsème sur la tarte, on déguste. Le croustillant de la pâte, le sucré salé de l'oignon et le fondant du chèvre relevé de pointes d'Espelette, Ali, vous m'en direz des nouvelles.
Merci à tous d'avoir participé à Gourmet vous fasse. Vous pouvez retrouver la bibliographie sur le site et l'appli France Inter. Demain, on s'intéresse à ces animaux mal aimés de l'histoire, en compagnie notamment de l'historien que nous aimons dans cette émission, Michel Pastoureau. Et tout de suite, eh bien, je vous propose de retrouver la série d'Antoine Compagnon, Un été avec Colette.
Je suppose que vous rentrerez toutes à l'école normale l'année prochaine.
Non, moi je rentrerai chez moi.
Comment vous appelez-vous ?
Claudine.
Un été avec Colette.
J'ai beaucoup entendu parler de vous.
J'avoue que mon instruction n'a pas dépassé l'école primaire. Vous n'allez pas me mépriser, j'espère bien que non.
Par Antoine Compagnon, Maternité.
Longtemps, la maternité effraya Colette. Dans Claudine à Paris, Claudine se promène au jardin du Luxembourg.
Que d'enfants, que d'enfants! Est-ce que j'aurai un jour tant d'enfants que ça? Et quel est le monsieur qui m'inspirera d'en commettre avec lui? Pouah, pouah!
Dans la maison de Claudine, Sido lui raconte sa naissance.
Quand je t'ai mise au monde, toi la dernière, Mina chérie, j'ai souffert 3 jours et 2 nuits. 3 jours, ça paraît long. Les bêtes nous font honte à nous autres femmes qui ne savons plus enfanter joyeusement.
À ce récit, la petite fille s'évanouit. Sa mère tente de la rassurer.
Ce n'est pas si terrible, va. C'est loin d'être si terrible l'arrivée d'un enfant. Et c'est beaucoup plus beau dans la réalité. La peine qu'on y prend s'oublie si vite, tu verras. Tu n'es même pas bonne à faire un enfant.
Lui disait Sido. Voulut-elle faire mentir Sido en concevant sa fille dans les semaines qui suivirent la mort de sa mère? Ou retenir le volage Jouvenel qu'elle épousa une fois enceinte?
Tu pouvais pas me rendre plus heureux.
Je me suis jamais sentie maternelle, Henri. Même aujourd'hui.
T'inquiète pas. C'est l'enfant qui te fera mère.
Colette mit donc au monde un enfant tardif, à l'âge de 40 ans.
Tu fais une grossesse d'homme. Une grossesse, il faut que ce soit plus gai que ça.
Lui reprochait un ami. Elle joua encore la pantomime à Genève entre le 5e et le 6e mois. Elle a l'air d'un rat qui traîne un œuf volé, mais elle qualifie aussi sa grossesse de longue fête dont elle n'a rien oublié. Elle est lancée dans son roman, L'Entrave, qui paraît en feuilleton, mais l'enfant manifesta qu'il arrivait premier et je vissais le capuchon du stylo. La petite Colette naquit en juillet 1913. Colette raconta aussitôt dans la presse ses premières impressions de maman, après 30 heures de travail. Elle s'inquiète et s'attriste.
Je n'ai que de l'appréhension, que de la peur, et je devrais être folle d'une joie avide, normale, d'une joie maternelle.
En un curieux carambolage, la petite fille reçut comme prénom le patronyme de sa mère, qui était devenu son nom de plume, comme si la concurrence avec le roman continuait.
Dans la compétition livre contre enfantement, c'est le roman Dieu merci qui eut le dessous.
Écrira Colette. Elle acheva l'entrave après l'accouchement, mais elle jugeait la fin ratée, sans doute sacrifiée.
Entre la coupure et la reprise, j'avais commis la laborieuse délectation de procréer.
La petite Colette fut vite mise en nourrice et élevée loin de sa mère durant la guerre par une nurse anglaise. En ce temps-là, les enfants grandissaient sans les parents. La pension prit le relais de la gouvernante. Colette fut une mère lointaine qui retrouvait de temps en temps sa fille avec plaisir.
Colette de Jouvenel, fille de Colette.
J'ai connu la mère admirable, j'ai connu la mère assez dure, parce qu'elle n'aimait pas beaucoup que son enfant fasse montre de faiblesse ou de mollesse. M'est arrivé de penser que jamais je n'arriverai à être satisfaisante pour elle, et que j'ai eu très souvent l'impulsion de me réfugier dans la stupidité, comme si ça pouvait me rendre couleur du muraille. Et plus je songeais que ça ne lui plaisait pas, et plus je m'enfonçais. Je crois par timidité et par une sorte de résignation à ne jamais pouvoir satisfaire une femme pareille.
Colette choisit la littérature contre la maternité.
Mon brin de virilité me sauva du danger qui expose l'écrivain, promu parent heureux et tendre, à tourner auteur médiocre. À bêtifier sur le culte des enfants, des plantes, des élevages sous leurs formes diverses.
Ce qui la sauva, ce fut sa grossesse d'homme. Mais ses relations avec sa fille ne cessèrent jamais d'être difficiles.
Est-ce que vous avez eu envie d'avoir une autre mère ?
Ça m'est arrivé, oui, au lycée. Je me souviens d'avoir demandé à ma mère si je ne pouvais pas devenir juive. Parce que comme les élèves du lycée avaient, les élèves qui étaient juifs au lycée avaient des familles très chaleureuses qui venaient tout le temps, je me disais, c'est peut-être ça la solution.